Bon, on a entendu des beaux témoignages, effectivement, des témoignages publics, puisque nous sommes dans un lieu public. Tout le monde a la possibilité et l'opportunité de venir, de passer cette porte pour voir ce qui s'y passe. C'est ouvert. Et en même temps, d'une certaine manière, c'est semi-privé, disons, parce que tout le monde a la possibilité, mais tout le monde ne le fait pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que dès qu'un chrétien s'exprime dans l'espace public, ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, pour peu que les gens sachent qu'il est chrétien, ou même qu'il le devine, même s'il ne met pas sa foi en avant, souvent, une bonne manière de terminer la conversation, c'est de le renvoyer dans la sphère privée, personnelle, parce que la foi, c'est privé, c'est personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on étale au vu et au su de tous. Alors, à Barcelone, quand j'ai vécu à Barcelone pendant 6 ans, et dans l'église où j'étais, il n'y avait pas de baptistère, et donc on sortait faire les baptêmes à la plage. C'était sympa, ça fait une belle sortie d'église d'ailleurs, entre parenthèses. On va à la plage et puis on baptise là, au milieu des baigneurs, donc tout le monde est en maillot de bain, tout ça, et puis nous on arrive, on rentre tout habillé dans l'eau, donc ça fait un drôle d'effet, effectivement. On se sent soi-même un peu étrange, il faut bien le dire, les gens regardent, ils se disent qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Et puis après on ressort de là, et puis on fait comme je fais tout de suite, c'est-à-dire qu'on prêche, sauf qu'on prêche à la plage avec des gens qui sont là, allongés sur leurs serviettes, tout ça. Et donc là, pour le coup, c'est plus public que ça, c'est difficile à faire. C'est un peu comme Jean dans le Jourdain, quoi, qui ne se souciait pas trop de qui il y avait autour, a priori. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est juste? Ou est-ce que c'est intrusif? Est-ce que la foi, effectivement, est une affaire privée qui doit rester à la maison, ou au mieux ou au pire, je ne sais pas comment il faut le dire, dans le cadre des murs d'une église? Ou est-ce que c'est un peu plus que ça? Et puis, est-ce que la question est bien posée aussi quand elle est posée comme ça? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un texte qu'on trouve dans l'Épître aux Colossiens. Je vais prier. Une fois que j'aurai prié, j'irai chercher la zapette. Parce que, voilà. Et puis, en attendant, je laisse mettre en place le PowerPoint qui va avec. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous l'avons entendu, la vérité nous rend libres. On s'approche de ta parole avec respect et en même temps avec envie, avec l'envie de voir à quelle liberté nouvelle tu nous appelles à travers elle. Seigneur, nous te remettons ce moment et nous te prions pour que ton Saint-Esprit vienne nous illuminer, pour que cette parole, on puisse la recevoir comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une parole qui vient de toi, qui a été inspirée par toi et même exhalée par toi. Seigneur, nous voulons pouvoir l'entendre comme toi tu veux que nous l'entendions. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc cette parole se trouve dans l'Épître aux Colossiens, et d'ailleurs... Ok. Voilà, j'ai appelé ça Jésus du dimanche et je vais vous afficher le texte, mais moi je vais le lire, quoique. Est-ce que j'arrive à le lire d'ici? Oui, ça devrait faire. Colossiens 3, verset 18 à 4, verset 6. Nous dit ceci, « Femmes, soyez soumises à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. » Liberté nouvelle. « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréé dans le Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair. » On est bien là aussi en termes de liberté. « Non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez comme des esclaves du vrai Seigneur, le Christ. Car celui qui agit injustement recueillera l'injustice qu'il a faite. Il n'y a pas de partialité. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Consacrez-vous assidûment à la prière. Par elle, veillez dans l'action de grâce. Priez également.
Et donc, on peut déjà se poser cette question, quel est mon rapport aux autres dans ma propre maison, dans ma propre demeure ? Il est adulte, et donc, globalement, à la fin, c'est quand même moi qui décide. Ou bien parce que les ressources financières, par exemple, arrivent essentiellement par mon biais. Bref, partout où d'autres dépendent de moi, en fait, ma responsabilité est décuplée. Ça ne parle pas tant de mon pouvoir que de ma responsabilité. Qu'est-ce que je fais de cette responsabilité ? Est-ce que j'utilise mon pouvoir pour écraser l'autre, pour dominer l'autre, pour décider que c'est moi qui décide parce que c'est moi qui ai l'argent ? C'est moi qui décide parce que je suis l'adulte ? Alors évidemment, à la fin, c'est moi qui décide parce que je suis l'adulte, mais ça n'empêche pas d'écouter, ça n'empêche pas d'être encourageant, ça n'empêche pas d'édifier, ça n'empêche pas d'expliquer. En fait, en Christ, je suis appelé à me débarrasser de tout esprit de domination sur les autres. Ça, c'est pour la sphère privée, au sein du foyer. Et puis ensuite, Paul ouvre notre horizon. Imaginez que je vous dise, « Bon, tes yeux bleus, là, c'est bien sympa, mais bon, ça t'est quand même très personnel, c'est tes yeux, quoi, ça te regarde toi. Donc la prochaine fois, ou bien tu viens, mais tu fermes les yeux, voilà, si tu sors de chez toi, tu vas les yeux fermés parce que tu n'as pas à nous imposer tes yeux bleus. Ou bien, mieux, tu les laisses chez toi. Tu les laisses à la maison. En fait, quand bien même on le voudrait, la foi, on ne peut pas la laisser dans la sphère privée. Parce que ce n'est pas un collier, ce n'est pas un adornement, ce n'est pas une bague qu'on peut retirer et remettre à notre guise, comme si on pouvait se l'enlever, quoi. C'est quelque chose en fait qui touche à tout notre être, corps, âme et esprit, à tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, à toutes les dimensions de notre vie, travail, famille, relation. Et non seulement ça, mais ce trésor qui nous a été donné, il nous a pas été donné pour qu'on le garde jalousement, il nous a été donné pour qu'on en fasse profiter tous ceux qui ont faim et soif de justice. Tous ceux qui, autour de nous, se rendent compte de leur faiblesse et de leur misère, mais qui ne savent pas quoi faire avec ça. Juste, ils se sentent misérables et faibles, et ils n'ont pas de solution. Tous ceux, en somme, qui ont saisi la nécessité d'être sauvés, la nécessité qu'ils ont d'être sauvés, et qui ne savent pas comment s'y prendre. Nous, on sait, parce qu'on l'a vécu. Nous avons été sauvés, et nous savons par qui. Alors Colossiens 4, 2 à 6, que j'ai lu tout à l'heure, du coup, nous invite à la prière. Consacrez-vous assidûment à la prière. Par elle, veillez dans l'action de grâce, dit Paul. Priez également pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole et que se dise le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison. Que j'en parle clairement comme je dois en parler. Comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Il y a un appel à la prière parce que c'est par elle, par la reconnaissance que nous exprimons envers Dieu pour notre propre salut déjà, que nous entrons dans une attitude de veilleur. C'est par notre relation à Dieu, cette relation qu'on entretient par la lecture de sa parole et aussi par la prière. Nous sommes dans une attitude de veilleur, conscient du retour du Christ qui ne devra pas nous prendre par surprise. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. C'est ce qu'on lit en Matthieu 25. Nous sommes invités aussi à prier pour la mission et pour ceux qui sont dans une attitude active de partage de leur foi, c'est-à-dire qui ? Nous tous, en fait. On est appelés à prier les uns pour les autres, à s'encourager les uns les autres, parce que tous, on a autour de nous des gens qui ont besoin du salut, qui ont besoin d'être sauvés, des gens qui sont dans l'obscurité, et qui ne savent même pas que la lumière existe. Alors, ça peut être des sujets de partage, et on prie. On prie les uns pour les autres. Et puis finalement, il y a un appel à être soi-même, du coup, de ces témoins du Christ dans notre propre entourage. Et d'abord, j'observe ici que c'est par notre manière d'être. On nous invite à nous comporter avec sagesse. On nous invite aussi à racheter le temps. Je ne sais pas comment vous vivez ça, mais en tout cas, moi, plus je prends de l'âge, plus je me rends compte que le temps, c'est important. Que le temps, il faut essayer de pas trop le mal utiliser parce qu'il est compté. L'argent, ça va, ça vient. Le temps, ça va. C'est tout. Donc, racheter le temps. Il y a des choses importantes dans la vie. Dans les choses qui sont importantes, il y a le fait d'être soi-même un bon disciple du Christ, de grandir dans notre foi, de faire ce qu'il faut pour ça. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est ce regard de compassion que Jésus a porté sur les foules en disant « Mais ils sont comme des brebis sans berger. On ne peut pas les laisser comme ça. » Ça aussi, c'est du temps bien utilisé quand on prend soin des gens qui nous entourent. D'abord donc par notre manière d'être. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Est-ce qu'on agit avec sagesse? Est-ce qu'on grandit soi-même dans notre manière d'être disciple du Christ? Et puis ensuite par nos paroles. Parce que le comportement ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être un bon témoignage par notre comportement. Il y a aussi besoin d'un témoignage oral qui accompagne ce que nous faisons et ce que nous sommes. Et notre parole, on nous dit ici qu'elle doit être accompagnée de grâce. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour regarder les autres, tout ce qu'ils font de mal, les juger, leur dire « si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer ». Ce n'est pas l'idée, il ne me semble pas, en tout cas ce n'est pas ce que je lis dans ce texte-là. Mais être accompagné de grâce, je vois ton besoin, je reconnais ton besoin, je vois ta douleur et je connais quelqu'un qui peut t'aider. Je sais où est la lumière qui peut t'éclairer. Jésus est venu pour sauver. Il reviendra pour le jugement. Mais c'est lui qui revient, ce n'est pas nous. Il n'y a pas besoin de devancer ça. Nous, on est là pour sauver à l'image du Christ. Une parole assaisonnée de sel, c'est bien ça. Une parole qui a du goût, qui fait du bien. Une parole que quand l'autre l'entend, il dit « Waouh, c'est bon ça, c'est bon ça. Parle-moi plus, j'ai envie d'en savoir plus, ça fait du bien ça, c'est bon. » Ça a de la saveur, c'est intéressant, c'est pertinent. Et pourquoi c'est pertinent? Eh bien parce que Paul nous dit que nous devons savoir, cette parole doit être assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. À chacun. Ça veut dire que ce n'est pas une parole générale comme celle que je suis en train de vous donner aujourd'hui. C'est une parole qui s'adresse à une personne, dans sa vie, dans ses soucis, dans ses besoins. Et en fait, ça ne peut pas arriver autrement que par la relation. À nouveau, la relation. Entrer en relation avec l'autre. Passer du temps avec lui. L'écouter. L'accompagner. Se laisser bousculer par lui aussi. Se laisser interpeller. Peut-être qu'il va mettre notre foi à l'épreuve parce qu'il aura des arguments. Parce qu'il ne comprend pas. Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on condamne? Ou est-ce qu'on reste dans la relation en faisant confiance à Dieu? Parce que nous, on s'aime, et puis lui, eh bien, il fait croître. En somme, être un témoin, c'est vivre une foi relationnelle, une foi qui est pertinente, une foi qui est inspirante pour les autres, et c'est quelque chose que nous vivons par nos attitudes et par nos paroles. Les gens ont soif de Jésus, et ils ne le savent pas. On peut le leur montrer, de manière toute simple, par la manière d'être en relation avec eux, et par les échanges qu'on peut avoir autour d'un café, autour d'un repas. Alors, j'avais appelé cette prédication, ça passe plus, c'est pas grave. Je ne sais pas si tu peux passer la diapo, mais de toute façon, voilà. J'avais appelé cette prédication « Jésus du dimanche, point d'interrogation ». Autrement dit, est-ce que notre foi se cantonne à la sphère de l'Église, au domaine privé? Est-ce que c'est pour entre nous ou pas? Évidemment, l'Église et la famille sont importants, mais Je crois qu'on l'a compris, notre foi, elle nous suit partout. Jésus n'est pas un Jésus du dimanche. Jésus habite chez nous, dans le foyer, mais il habite surtout en nous, toute la semaine, tout le temps, en permanence. Ce qui implique deux choses, je crois. La première, c'est comment est-ce que je nourris ma foi pour devenir moi-même un meilleur disciple. Et la deuxième, c'est comment est-ce que je participe à ce que d'autres autour de moi deviennent eux aussi de meilleurs disciples. Comment est-ce que je participe à ce que des gens qui sont dans les ténèbres autour de moi trouvent cette lumière qui m'a été donnée et y accèdent. Alors, peut-être que cette semaine, on pourrait essayer d'identifier en soi, chez soi, un lieu de croissance possible. Et il y en a plein. Je suis sûr que si on prend la peine d'y réfléchir, ne serait-ce que 5 minutes, de prier, de demander à Dieu, on va trouver des lieux de croissance. Moi, j'en ai. D'autant qu'il y en a qui reviennent. Il y a des choses qu'on croit avoir réglées, puis finalement, peut-être pas tout à fait. Ou il y a des mauvais plis qu'on peut avoir pris aussi, qu'on n'avait pas forcément il y a 5 ans, mais ces derniers mois, je file un mauvais coton. Identifier un lieu de croissance possible et puis prendre la décision de s'y atteler, de dire là, je veux grandir. Seigneur, tu m'as montré ça, tu m'as mis ça à cœur, eh bien je veux avancer sur ce thème-là. Et puis la deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'entrer en relation avec quelqu'un. Peut-être une relation dont on voit qu'elle s'est distendue avec le temps et on le regrette, mais malgré tout, on se laisse embarquer par le quotidien et puis on n'a pas le temps ou on pense qu'on n'a pas le temps. Ben, on le rachète, le temps, du coup, et puis on arrête de scroller et puis finalement, on passe un coup de fil à cette personne. Ou peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on a entendu un jour cette personne dire quelque chose, ça nous a interpellé, on aimerait en savoir plus. Ben, c'est l'occasion, il faut oser, il faut juste passer le pas, aller la voir, cette personne, et lui dire « Je t'ai entendu dire ça, j'aimerais bien en savoir plus. Est-ce qu'on pourrait aller boire un café ?» Ce n'est pas très compliqué, en fait. C'est très simple, même. Aujourd'hui, on a vu Véronique et Jean-Noël se faire baptiser. Et on se réjouit de ça, évidemment. On a bien raison de s'en réjouir. Les anges s'en réjouissent aussi, Dieu s'en réjouit. Il n'y en a qu'un que ça énerve, mais ça ne nous intéresse pas, lui, donc ce n'est pas grave. Nous, on se réjouit. Mais pour eux, comme pour nous tous, le baptême, c'est une étape seulement. C'est une étape. C'est une étape d'un parcours qui est bien plus ample, parce que dans notre Église, on ne cherche pas à faire des baptisés qui font des baptisés. On ne cherche pas à remplir des bancs le dimanche, enfin des chaises en l'occurrence, ici c'est des chaises. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche à être des disciples du Christ qui font des disciples du Christ. Voilà ce qu'on cherche à faire. Et ça, c'est l'aventure d'une vie. On a vu une étape aujourd'hui, à nous de bâtir la suite. Je vais prier. Seigneur, je veux te rendre gloire et te rendre grâce parce que la vie avec toi, c'est vraiment une aventure. Avec des hauts, avec des bas, avec des moments faciles, des moments difficiles, des moments joyeux, des moments plus compliqués, des moments où on est très heureux d'être dans ton église, où on trouve ça merveilleux, et des moments où il n'y a rien qui nous pèse plus que d'être entouré des frères et des sœurs. Mais c'est la vie, en fait. Et tu l'as voulu comme ça, Seigneur. Tu as voulu que nous ayons une foi qui soit communautaire, parce que c'est au contact les uns des autres que nous grandissons, que nous nous édifions. Parfois, ça fait mal, parce que parfois, c'est pas agréable le miroir que nous renvoie le frère ou la sœur. Parce que parfois, on a du mal avec les caractères, parce que parfois, on ne se comprend pas, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais Seigneur, c'est par tous ces moments-là aussi que tu nous aides à approfondir notre foi, notre relation avec toi, à comprendre mieux qui tu es, Seigneur. Parce qu'on n'est pas tout seul. On est entouré de frères et de sœurs qui ont le Saint-Esprit en eux, comme nous l'avons nous-mêmes. Alors, par leur bouche, tu nous parles. Par les défis qu'ils représentent pour nous, tu nous parles. tu nous édifies, tu nous construis. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de ça. Seigneur, tu nous appelles aussi à partager autour de nous ce trésor que nous avons trouvé en toi. Ce trésor que tu as posé dans nos mains, gratuitement, et que nous avons accueilli en te reconnaissant, en reconnaissant ton Fils comme notre Seigneur et notre Sauveur, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Nous reconnaissons devant toi que nous sommes pécheurs, qu'il y a beaucoup de choses en nous qui te déplaisent. On passe souvent à côté du but, on l'a entendu tout à l'heure dans un témoignage. On est à côté de la plaque. Mais toi, tu nous fais grâce. C'est toi qui nous invites à ta table, par exemple, sans attendre qu'on soit parfait. C'est un cadeau que tu nous fais. Tu nous accueilles comme ça, et tu nous accueilles parce que tu veux nous sanctifier. Tu veux nous faire aller de grâce en grâce. Tu veux nous permettre de grandir dans notre foi, d'aller aussi de repentance en repentance. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ça, parce que simplement nous marchons avec toi et qu'il n'y a rien de plus beau que de marcher avec toi, que de ne plus jamais se sentir seul, que de savoir qu'on est bien accompagné, même quand on trébuche, même quand on chute, même quand on désespère parfois. Toi, tu es là et on ne tombe jamais plus bas que dans ta main. Merci Seigneur pour ça. Amen. Alors nous allons avoir le temps de Sainte-Cène à présent, qui est donc le repas dont j'ai parlé dans ma prière, auquel le Seigneur nous invite. Et c'est une invitation qu'il fait à tous, pas aux super chrétiens qui ont tout compris,